La mission finale pour sauver l'humanité a échoué. Mathilda, l'astéroïde de 110 km de diamètre, va percuter la Terre dans exactement 3 semaines. Le compte à rebours pour la fin du monde est donc lancé, mais il se fera bien entendu au son de vos classiques rock préférés.
Juste la fin d'un monde, une émission de radio sur l'écologie politique, avec des entretiens et des extraits de films et de musique. Entretien avec Roland Gori, philosophe et psychanalyste.
Donc, on confond souvent l'informatique et la cybernétique, mais en fait, l'informatique, c'est vraiment fondamentalement différent, parce que, enfin, l'informatique, en tout cas, ça c'est ma vision personnelle des choses, l'informatique, c'est la miniaturisation de l'automatisation, et la cybernétique, c'est vraiment la science de la régulation sociale. Et du coup, l'informatique, c'est ce qui permet à la cybernétique d'exister. Mais justement, par rapport à la question de la cybernétique, vous, en tant que spécialiste du travail social et de la psychopathologie, comment vous définiriez la cybernétique du point de vue de son application aux sciences sociales ?
Ah, si vous voulez, la cybernétique, on l'a oubliée, mais historiquement parlant, elle est définie par Ampère comme étant la science du gouvernement. Donc ça n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, elle vienne croiser à la fois les questions éthiques, les questions politiques, avec bien évidemment l'amplification technique que permettent les nouvelles technologies, dont les technologies de la communication, qui ont été complètement recomposées par les progrès de l'informatique. La théorie de la communication, la possibilité même de, si vous voulez, modéliser numériquement le monde a permis aujourd'hui une amplification du contrôle social qui n'est pas sans poser des problèmes à la fois éthiques et politiques. Alors je pense que celui qui certainement a le mieux posé les questions, c'est Norbert Wiener, qui dans Société et informatique a posé le risque de voir se développer, je dirais, une capture des comportements qui serait ensuite gérée par cette voie-là. Et je pense qu'on se rapproche à ce moment-là d'une normalisation sociale extrême qui avait d'ailleurs été déjà anticipée par le médecin philosophe Georges Canguilhem, qui disait que le risque d'une société de la norme, c'était bien sûr non pas de voir nos sociétés régresser au stade des sociétés archaïques, mais se modéliser selon le paradigme des sociétés animales. C'est-à-dire qu'effectivement, nous serions tous en quelque sorte gouvernés par un rapport à la machine qui nous prescrit les comportements que nous devons avoir, en tout cas qui les suit à la trace, qui les surveille et qui finit par les corriger.
Bonjour, je vous apporte les prévisions des activités du numéro 6.
Bien, dites, est-ce que c'est très exact? Quel est le pourcentage d'erreurs qu'il faut prévoir?
Malheureusement, nous l'ignorons.
Oh, pourquoi ça?
Nous avons par deux fois demandé à notre appareil un pourcentage de sa propre efficacité, et les deux fois, il a refusé de nous communiquer cette information.
Il a refusé? C'est-à-dire?
Tout simplement qu'il n'a pas répondu à nos données.
Ils vont bientôt créer leur syndicat si on les laisse faire. Mais, bon, allez, lisez-moi ce que vous avez appris.
Il est exactement 10h18. Le programmateur indique que le sujet est en train de faire sa promenade quotidienne à travers le village.
Continuez.
À environ 10h20, il doit se rendre au kiosque. Il achète un journal, toujours d'après mon programmateur, un morceau de savon et un paquet de sucreries.
Oh non, non. Il n'achète jamais aucune sucrerie.
Pourtant, nos prévisions indiquent...
Non, peu importe ce que peuvent indiquer vos prévisions. C'est faux. Inutile de poursuivre.
Il ne nous faut qu'une seconde pour le vérifier.
Bon, d'accord. Allez-y.
Mais je vous dis que j'en ai besoin.
Pour la dernière fois, madame, vous avez déjà utilisé tout votre crédit de cette semaine. Alors revenez demain.
Mais vous savez que je ne peux pas rester toute une journée sans prendre mes sucreries.
Désolé. Eh oui, c'est à moi un paquet de sucreries pour cette dame. Veuillez m'excuser. Comment l'avez-vous su?
Pour être précise, nos prévisions doivent tenir compte de toutes les modifications que peuvent apporter différents éléments extérieurs.
Si j'ai bien suivi, votre appareil a été capable de calculer que la gourmandise de cette vieille femme pourrait changer la conduite, disons, habituelle du numéro 6.
Le numéro 6 va se rendre dans le quartier des personnes retraitées, où vers approximativement 11h20, il commencera une partie d'échecs avec le numéro 82. Cette partie ne devrait pas durer plus de 20 minutes. Elle se terminera par la victoire du numéro 6 en moins de 11 coups. Ils recommenceront une autre partie...
Je ne m'intéresse pas à leur partie d'échecs. Passez à la suite.
À partir de 12h20, il doit livrer un combat de cochon au gymnase du village contre le numéro 95.
Voilà, ça y est.
Mais ce n'est pas tout, il est très actif.
Je ne tiens pas à en savoir plus, j'ai trouvé ce que je voulais, merci.
Oui, numéro 2.
Alors, si oui, je peux vous donner un exemple dans le domaine de la santé publique, qui va certainement poser très concrètement ce problème des risques éthiques, politiques, que comporte justement une espèce de numérisation du monde et une transformation de l'existence en vie purement algorithmique, traitée par, bien sûr, les big data et ceux qui sont derrière, quand même. Bon. Alors, l'exemple, il est très simple, je le donne souvent, parce qu'il est très, très simple et à la fois très symbolique, très symptomatique. Il s'agit, vous le savez peut-être, d'une expérience pilote qui a eu lieu à Londres, mais qui déjà a lieu aux États-Unis et a tendance à se diffuser en Europe du Nord. Cette expérience pilote qui a lieu à Londres, elle concerne les personnes qui sont arrêtées sur la voie publique suite à des troubles sociaux mineurs de type injure, altercation, voire bagarre, sous l'effet d'un excès d'alcool. Alors, c'est vrai que le problème des excès éthyliques est important, puisque près de 50% des services d'urgence des hôpitaux londoniens accueillent justement ce type d'excès. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont on va répondre à ce problème de santé publique. Alors, on va y répondre avec d'abord la loi de 2012 qui pose tolérance zéro pour ce type de comportement social, pour ce type de pathologie sociale sous l'emprise de l'alcool. Et puis ensuite, la proposition qui est faite, si vous voulez, c'est non pas d'envoyer les gens en prison ou de les punir avec des amendes extrêmement lourdes, bien qu'encore une fois, ça soit le dispositif juridique qui traite aujourd'hui ces problèmes de troubles sociaux mineurs, encore une fois, sur la voie publique à la suite d'excès d'alcool, mais on va leur proposer de porter un bracelet électronique à la cheville qui mesure toutes les 30 minutes à partir de l'analyse de la sueur, la transpiration, le taux d'alcoolémie. Donc en somme, à la moindre pinte de bière, au moindre whisky supplémentaire, n'est-ce pas, la machine envoie, si vous voulez, une alerte, un signal qui, à terme, peut conduire, bien sûr, la personne en prison ou en tout cas devant un tribunal avec une amende très forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est la déclaration que fait l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, au journal Le Monde au mois d'août 2014. Il dit qu'en gros, on ne vise pas les délinquants, on ne vise pas les malades, donc pas ceux qui relèvent de la police ou ceux qui relèvent de la psychiatrie, pour aller très vite, on vise tous ceux qui exagèrent un peu trop un vendredi ou un samedi. Plutôt que de les emprisonner, les mots sont importants, on peut les aider, je crois que c'est moins cher et plus efficace. Alors, on peut les aider, ça veut dire que la forme, si vous voulez, de l'aide aujourd'hui dans nos sociétés, justement prise par ce modèle des big data, c'est pas le soin, c'est pas l'aide pédagogique, c'est pas essayer de savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un a un peu trop picolé, est-ce que ça a un lien avec son état psychique du moment, ou est-ce que ça a un lien avec des coutumes ou des rituels sociaux. Non, pas du tout. On va finalement déléguer à la machine le soin de surveiller le comportement de l'individu, c'est-à-dire qu'en gros, on va substituer à la conscience morale, au surmoi par exemple, on va lui substituer une machine qui va surveiller le comportement individuel et donc alerter dès que la conduite s'écarte de la norme tolérée. Chose aussi importante, c'est moins cher et plus efficace, c'est moins cher, ça veut dire que nous entrons de plein pied dans ce que j'appelle une rationalité pratico-formelle, c'est-à-dire, si vous voulez, une police des comportements fondée sur la pensée des affaires et la pensée du droit. C'est moins cher, c'est un langage de comptable, ça veut dire que finalement, on ne cherche pas à savoir si c'est mieux pour le sujet d'être pris en charge par en psychothérapie ou d'être surveillé par la machine, par le bracelet électronique. On dit simplement, ça, c'est moins cher, donc ça vous fait faire des économies. C'est plus efficace. C'est intéressant parce que plus efficace, ça veut dire encore que c'est un langage de machine. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de faire fonctionner le comportement tel qu'on a considéré qu'il doit fonctionner dans une société donnée à un moment donné. C'est-à-dire, si vous voulez, que les marges de manœuvre sont définies par les normes sociales. Et là encore, qu'est-ce que signifie le symptôme de trop picoler et d'être dans des bagarres? On n'en a vraiment rien à faire. La seule chose, c'est ramener le sujet au comportement que l'on a souhaité voir développer. Alors, est-ce que c'est vraiment plus efficace? Ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on est allé voir aux États-Unis, notamment des recherches qui ont eu lieu dans Dakota du Sud, et on s'est aperçu que tant que les gens portent le bracelet électronique, effectivement, moins de 5% récidivent. Donc, ça a une efficacité tant qu'ils portent le bracelet électronique. Mais quand on leur enlève le bracelet électronique, la moyenne des récidives rejoint la moyenne générale. Donc, résultat des courses, ou bien il faut laisser le bracelet électronique toute la vie, n'est-ce pas? Ou bien, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des limites à substituer à la conscience morale de quelqu'un, si vous voulez, à un dispositif, je dirais, alors fondé sur la cybernétique, hein, puisqu'on est vraiment dans l'interaction des signaux.
Bonjour. Messieurs les jurés, la séance d'aujourd'hui portera sur un sujet bien connu de vous tous. Je vous ai rassemblés dans cette salle pour donner votre avis sur de nouveaux révoltés. Mais je tiens à ce que la procédure soit respectée par chacun d'entre nous, sans la moindre exception. Mais rappelez-vous toutefois que l'humanité ne s'est pas, disons, humanisée sans avoir recours à la force. Et que les brebis égarées peuvent parfois être ramenées dans le droit chemin si on leur administre une bonne punition. Avant toute chose, je dois attirer votre attention sur un point précis. C'est la communauté qui est en jeu. Vous savez que nous avons les moyens de la protéger. Cette assemblée est donc au courant de sa tâche.
Permettez-moi de vous présenter le numéro 6.
J'ai entendu dire qu'il avait surmonté la dernière épreuve.
C'est exact.
Dans ce cas, je vous précise qu'il ne doit plus être considéré en tant que numéro 6 ou n'importe quel autre chiffre. Il a donc acquis le droit d'être enfin traité en individu par les autres individus et il n'y a pas la moindre raison de le faire plus attendre. Et voyez cette assemblée qui se lève devant vous, monsieur. Allez! Cher monsieur, nous sollicitons votre indulgence pour quelques minutes. Le transfert définitif du pouvoir exige une pénible cérémonie, alors peut-être pourrais-je vous demander d'observer les préliminaires de la place qui vous est réservée. Nous vous remercions, cher monsieur, et nous vous promettons d'être aussi bref que possible.
Justement, par rapport au bracelet, en fait, les bracelets connectés, on est à fond là-dedans, et par exemple, effectivement, il y a de plus en plus d'assureurs qui proposent, par exemple, de faire payer des réductions, de donner réduction à ceux qui acceptent les bracelets, ce qui signifie une surcote pour ceux qui les refusent.
Alors, c'est la raison pour laquelle je ne considère pas, si vous voulez, que cette surveillance est lié en quelque sorte à simplement une pratique facile, une pratique économique, je crois que c'est la fabrique d'un lien social. C'est-à-dire, c'est la manière dont aujourd'hui on conçoit le lien social sur le mode de la connexion numérique et interactive avec des machines et pas avec des êtres humains. Alors, vous prenez cet exemple, oui, vous avez raison, un exemple d'ailleurs que je donne dans mon dernier livre, Monde sans esprit, qui insiste justement sur cette espèce de désenchantement du monde, si vous voulez, de désacralisation du monde et de transformation de l'univers et du vivant, finalement, en segments techniques, en stock d'énergie à exploiter à l'infini, en machine, pour aller très vite. Hein, vous avez cet assureur qui s'appelle Generali, par exemple, qui en juillet 2016 a proposé une modulation des primes d'assurance en fonction des comportements tels qu'ils pouvaient être captés et traités par des big data, puisque les gens donnaient un certain nombre d'éléments qui étaient leurs traces numériques, leurs pas numériques, si vous voulez, comme la fréquentation d'une salle de sport, comme des visites médicales, ou bien...
Le nombre de pas par jour aussi.
Comment ? Le nombre de pas par jour, oui, absolument, mais aussi manger bio et autres. En gros, le sujet humain, à ce moment-là, réduit à une espèce de configuration d'indices et de marqueurs qui sont, traités par la machine et qui renvoient un profil indiquant simplement le risque de voir apparaître des maladies ou des comportements indésirables. Alors, c'est un point qui est extrêmement important, et je ne sais pas si vous avez vu ce dessin dans Le Monde, que je trouve absolument très significatif, et puis plein d'humour. C'est un couple qui est en train de dîner, et le mari donc reçoit un appel, et la femme lui dit « qui c'est ?» et il répond « c'est mon assureur, il me demande si c'est vraiment bien raisonnable de prendre une deuxième fois de ce plat ». Donc si vous voulez, on a là vraiment d'une manière tout à fait humoristique, mais extrêmement véridique, ce qu'il en est aujourd'hui du souci, de la manière de prendre soin du sujet humain, de le former, de l'éduquer, de le soigner, de le socialiser. C'est purement et simplement délégué aux machines. Alors, l'importance dans ce cas-là, si vous voulez, c'est que d'abord c'est efficace, relativement, puisqu'il faut garder la machine tout le temps, mais on est donc dans un univers qui finalement, vous le savez, va capter l'ensemble de vos traces numériques, celles que vous laissez quand vous allez sur le net, celles que vous laissez lorsque vous passez devant des vidéos ou devant des capteurs. On est dans vraiment cet univers numérique qu'avait tout à fait anticipé un auteur américain qui s'appelle Negroponte, que vous connaissez, l'homme numérique, n'est-ce pas, qui disait justement « nous allons rencontrer demain notre prochain dans ces quartiers numériques » et qui imaginait tout à fait un monde parfaitement intelligent, où finalement, dans ce monde parfaitement intelligent, c'est les objets qui sont interconnectés, c'est-à-dire vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages, et votre véhicule va envoyer des signaux à votre cafetière pour dire qu'elle doit retarder d'une heure le café à fabriquer, dans la mesure où vous êtes dans les embouteillages. Vous arrivez, et à ce moment-là, la porte s'ouvre en fonction des données biométriques qui sont les vôtres.
Suis-je au village? Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2.
Qui est le numéro 1?
Vous êtes le numéro 6.
Vous n'en aurez pas.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
C'était Juste la fin d'un monde, une émission sur l'écologie politique. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.